Miretzaki, rédactrice en chef adjointe à Bilan. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler aujourd'hui des forfaits fiscaux. On a l'impression, depuis les dernières votations, que la Suisse se détache gentiment de cette solution, disons, d'attraction de certains touristes étrangers prêts à venir s'installer en Suisse à certaines conditions favorables.
Oui, tout à fait. Ils sont donc sous le feu des critiques. Les pressions sont venues notamment de Suisse alémanique et aussi du Parti socialiste, des différents partis socialistes romands. Donc, ils ont déjà été supprimés à Zurich, Schaffhouse, Appenzell, Rhodes-Exterieur et Bâle. Glarus, Lucerne, Saint-Galtier-Augoli et Berne ont opté pour un durcissement du forfait. Et sur le plan suisse aussi, on va augmenter le seuil du forfait. Pour les cantons romands, on sent bien que le vent du boulet est en train de souffler sur les forfaits genevois, vaudois et valaisans.
Vous parlez des pressions du Parti socialiste, mais en fin de compte, est-ce que on ne se prive pas d'une manne qui profitait de toute manière à la population?
Écoutez, moi j'aurais naturellement eu tendance à critiquer les forfaits fiscaux parce que voilà, c'est un avantage à des gens déjà bien suffisamment aisés qui doivent des impôts quand même à leur pays, etc. Mais j'ai changé de posture quand j'ai vu les attaques et la violence des attaques qu'a subi la Suisse à l'exclusion, et je dis bien à l'exclusion de toutes les autres places financières. Quand j'ai constaté cette discrimination et que j'ai vu là derrière une forme de protectionnisme où les grandes places protègent leur propre industrie bancaire et leurs propres havres fiscaux et attaquent uniquement la Suisse, je me suis dit, mais au fond, on aurait intérêt à s'attacher à ce qu'on a. C'était pas si mal conçu, l'idée du forfait fiscal, parce que ils rapportent quand même 670 millions d'impôts à la Suisse, plus 1,4 milliard dépensés par ces personnes ici, en Suisse. Il emploie 22 000 personnes ici. Et donc, c'est quand même un bon revenu qui est lié à la souveraineté fiscale de la Suisse. A priori, ça paraît assez légitime, sauf si bien sûr les riches suisses eux-mêmes, puisque c'est ce qui se passe en Suisse alémanique, le critiquent parce qu'ils s'estiment eux-mêmes discriminés. Mais à la limite, ils sont libres d'utiliser d'autres juridictions que la Suisse, si ça leur chante. Et après, ce sera leur affaire à eux, entre eux et le fisc suisse, d'en découdre. Mais moi, je suis aujourd'hui plutôt affligée de voir comment la Suisse est la seule qui a pris des dispositions pour éloigner les évadés fiscaux de toutes ces banques, à quel point elle est allée loin là-dedans, allant jusqu'à exiger des attestations fiscales. Plusieurs banques suisses ont mis en place des formulaires hein, pour que le client s'auto-déclare, ce qui est une mesure jamais vue dans aucun autre pays. Et donc, dans ce climat-là, je trouve que s'en prendre aux forfaits fiscaux est vraiment aller très loin, d'autant que le statut des sociétés auxiliaires qui représentent la plupart des sociétés de négoce, notamment sur l'arc lémanique, est également menacé par l'Union européenne. Ça fait donc beaucoup de choses en même temps.
Alors, on vous rejoint tout à fait. On a l'impression que nos autorités sont comme paralysées par les attaques qui viennent d'un peu partout d'ailleurs, et on ne comprend pas cette propension. Vous parliez des socialistes, mais effectivement, ça vient essentiellement de la gauche, à parler de morale là où le reste du monde parle finalement de concurrence.
Oui, il y a une incompréhension, un manque de conscience par rapport à ce qui se passe ailleurs. La plupart des gens qui sont contre le secret bancaire, un Suisse moyen, plutôt bien pensant, qui serait contre le secret bancaire, ignore totalement que on peut ouvrir un trust du Delaware sur Internet en 15 minutes pour 75 dollars. Et donc, n'a pas conscience de l'opacité qui règne encore dans les autres places financières qui non seulement accueillent des avoirs non déclarés, mais également des avoirs du blanchiment, blanchis, je veux dire, issus du crime organisé. Et ils sont très très loin de ce que la Suisse fait maintenant depuis les années 90. Auparavant, oui, la Suisse a eu une image que Jean Ziegler a bien cristallisée dans son livre La Suisse lave plus blanc, où on accueillait ici des potentats, etc. Depuis un certain temps, on fait preuve d'une diligence particulièrement poussée concernant les avoirs liés au crime. Il y a une vraie diligence qui est effectuée. Tandis qu'ailleurs, déjà, les autres places n'avaient pas suivi. Donc, on a pris une certaine avance. Maintenant, on est une place qui se retrouve au plan politique isolé, politiquement, qui n'est pas dans une grande alliance et donc qui subit aujourd'hui des attaques sur ses avantages compétitifs qui la mettent même à un désavantage face même au Luxembourg, parce qu'il fait partie de l'Union européenne et qu'il est aujourd'hui devenu la Mecque des fonds de placement notamment. Position que la Suisse n'arrive pas à rattraper. La Suisse n'arrive pas à régater en termes de domicile de fonds de placement.
Alors, on a effectivement l'impression que les piliers de la structure sont en train de s'effondrer, que le décor tout entier de la place financière est en train de sombrer. J'ai des contacts dans la finance genevoise qui me dit qu'ils reçoivent quotidiennement des coups de fil des gestionnaires de fortune luxembourgeois qui leur proposent finalement de tout mettre au Luxembourg et de continuer à faire un petit peu vitrine en Suisse pour amasser quelques clients, mais justement avec les accords Ubiquis et ce genre de choses-là, de contourner tous ces obstacles en délocalisant l'ensemble des activités au Luxembourg.
J'ai exactement les mêmes échos, c'est-à-dire que pour ouvrir un compte au Luxembourg, le bureau d'une banque suisse a tout d'un coup beaucoup moins de contraintes. Les règles de non-sollicitation de clients, non-démarchage, de non-incitation à l'évasion fiscale sont tout d'un coup beaucoup plus souples là-bas puisqu'on est à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, celles qui ont les banques suisses qui ont des bureaux au Luxembourg, eh ben, elles n'hésitent pas à en profiter, selon mes informations.
Au chapitre des solutions, déjà la question des forfaits fiscaux, elle semble révélatrice d'un discours de la gauche qui finit malgré tout par passer. Il y a un certain matraquage médiatique, comme ça on nous rabâche que l'argent c'est vilain, c'est peu moral, ce genre de choses-là. Mais curieusement, ça prend.
Parce qu'il y a une part très importante de vérité, c'est que à la base, vous et moi, on ne veut pas défendre l'évasion fiscale comme principe. En tout cas, moi, je ne vais pas jusque-là idéologiquement. Je trouve que tout le monde devrait payer ses impôts, ne serait-ce que parce que vous et moi, qui faisons partie de la classe moyenne, si les richissimes détournent les impôts et placent leur fortune ailleurs, eh ben, c'est nous qui allons hériter du fardeau fiscal. Le gouvernement va venir s'en prendre à nous et nous, on va supporter toute la charge fiscale des moins fortunés et des plus fortunés ne payent pas. Et donc, c'est insupportable pour les classes moyennes qui sont condamnées à une espèce d'austérité en raison de taux d'imposition très élevés et de crise économique maintenant chronique. Ça fait beaucoup. Et donc, je ne peux pas défendre l'évasion fiscale, ne serait-ce qu'à cause de ça. Pour des raisons d'équilibre, tout le monde devrait mettre la main à la caisse et payer des impôts au gouvernement, du moins dans la mesure où on profite des infrastructures du territoire où l'on se trouve. Il est évident qu'il faut le faire. Par contre, j'exige, moi personnellement, je serais pour exiger, moi je n'exige rien, je serais pour que la Suisse exige un pied d'égalité, un traitement sur pied d'égalité, c'est-à-dire un level playing field. Il est vraiment outrageux de voir que la Suisse est la seule qui est en train de nettoyer sa place financière et que les autres places financières prospèrent, accueillent d'énormes fonds, que le premier ministre britannique a été jusqu'à dire aux Français, si vous avez peur de Hollande, venez vous réfugier chez nous, évadez votre fisc et venez chez nous, il n'y a aucun problème. Lui-même, il fait personnellement de la sollicitation et de l'incitation à l'évasion fiscale sur les médias du monde entier et personne n'a rien à lui reprocher, alors que la Suisse en est au point de dire, nous, on est la place la plus propre du monde et on refuse tout argent non déclaré parce qu'elle est terrifiée. Donc, il y a vraiment un rapport de force, on est dans des politiques de force. Le droit international et les droits souverains des différents pays ont peu à voir avec cette histoire. Et les techniques d'évasion fiscale anglo-saxonne triomphent littéralement sur les anciennes techniques qui étaient celles du droit civil, de juridictions relevant du droit civil comme la Suisse, le Liechtenstein, même le Luxembourg et d'autres places continentales. Donc, les techniques anglo-saxonnes triomphent, elles captent l'énorme majorité des fortunes de richissimes Italiens, Européens, Américains, Asiatiques, etc. Et pendant ce temps, la Suisse est la seule à faire son devoir.
Alors effectivement, notre honnêteté semble nous coûter assez cher.
Il y a aussi une forme de protectionnisme très importante, si vous permettez. J'aimerais parler de l'affaire UBS en France, qui m'a rappelé l'affaire UBS aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on choisit une banque étrangère comme bouc émissaire parce qu'on a jugé qu'elle a violé le droit du pays en allant démarcher sur son territoire. Mais à mes yeux, le fait pour des banques françaises d'aider des Français à sortir leurs avoirs de France pour les planquer offshore, c'est d'une gravité tout à fait similaire, voire plus élevée encore, que celle d'une banque suisse qui vient sur le territoire français éventuellement pour démarcher. Il se trouve que les gouvernements américains et français ne jugent pas du tout de la même façon et estiment que si leurs banques américaines et françaises sont responsables de 98% de l'évasion fiscale américaine et française, c'est pas grave et que si la Suisse est responsable de 2% de cette évasion, ça c'est gravissime. Là aussi, il y a une distorsion complète et on voit à quel point le droit et la justice et les enquêtes qui sont menées relèvent d'une subjectivité et d'intérêts nationaux parfaitement compris.
Alors là, effectivement, ça semble assez clair. Il y a que le gouvernement suisse qui semble ne pas rencontrer cette évidence.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Le gouvernement suisse à céder. On peut l'imaginer sous des pressions énormes, y compris des pressions directes de la part de certains gouvernements. On n'aimerait pas être à leur place, on n'est pas sûr qu'on ferait mieux. Mais toujours est-il que le gouvernement suisse a tellement devancé en utilisant le droit d'urgence, a tellement même violé le droit suisse à travers le droit d'urgence, a tellement devancé les demandes de nos voisins et partenaires économiques, que on est dans un engrenage sans fin. Les attestations fiscales qui ont été réclamées par les banques maintenant à des clients de l'Union européenne, elles n'ont aucune base légale en Suisse. Elles contreviennent même au code pénal suisse. Donc, c'est le Conseil fédéral qui a mis la pression sur la FINMA, qui elle-même met la pression sur les banques, qui vient même visiter les locaux pour vérifier qu'ils appliquent bien la Weißgeldstrategie. Et donc, les banques sont obligées de mettre en place des formulaires et des choses concrètes pour pouvoir dire, voyez, on est bien en train de filtrer à l'entrée et de faire notre travail de manière extrêmement diligente, parce que on considère désormais l'argent de l'évasion comme de l'argent criminel. Alors, ce zèle excessif met les banques à risque à divers points, sur divers aspects juridiques, notamment le fait que si un client ment en signant le formulaire comme quoi il est déclaré, eh ben, le gouvernement étranger va pouvoir dire à la banque suisse, ben, vous voyez, vous n'avez même pas vérifié et le client mentait et vous auriez dû vous-même vérifier. Donc, complicité d'évasion fiscale. Alors, on s'en sort plus après. On est dans un engrenage, on s'en sort plus.
Mais on s'en sort d'autant moins que devant certaines attaques de certains gouvernements. Je prends l'exemple des annonces fracassantes de campagne de François Hollande, promettait 75% d'impôts. On a l'impression que la solution, c'était la domiciliation sur le territoire suisse, par exemple, pour certains ressortissants étrangers. Donc, d'où la question des forfaits fiscaux pour certains retraités. Mais on a l'impression que même maintenant, avec cet accord de double imposition avec la France, la domiciliation ne suffira plus à s'évader fiscalement. Donc, ce sera un système à l'américaine où même si on vient vivre en Suisse, on continuera d'être imposé en partie ou en totalité en France. Donc, on a l'impression qu'on va devenir une espèce de banlieue financière de l'Union européenne avec plus aucun droit, plus rien.
Alors, c'est pas faux, c'est-à-dire que l'annonce sur l'imposition à 75% va alimenter le marché de l'évasion fiscale, va le faire probablement augmenter fortement. Il augmente hein, tendanciellement avec les taux d'imposition qui montent en Europe. Le marché de l'évasion fiscale augmente, il connaît un boom actuellement. Il est très loin de se résorber. Mais cette évasion fiscale ne va plus vers la Suisse. Parce que même les délocalisations, comme vous le disiez, eh ben, elles posent un risque juridique. Si quelqu'un vient ici au forfait, par exemple, il n'est pas du tout sûr que ça va durer. On a le récit de certains gérants de hedge funds britanniques qui avaient eu un forfait de 3 ans ici, qui souhaitent ne plus les reconduire à cause de l'incertitude juridique sur Genève, notamment. Donc, même comme place de délocalisation, pour des entrepreneurs suisses, pour des entrepreneurs français, la Suisse devient moins intéressante, même que la Belgique ou que d'autres places comme l'Angleterre, etc. La vérité, c'est que les grandes fortunes vont quand même vouloir évader le fisc français. Simplement, elles utiliseront les techniques anglo-saxonnes, les places financières de droit commun, common law, qui ont les bonnes entités aujourd'hui dans l'environnement actuel. Ce sont des entités conçues pour l'environnement actuel, c'est-à-dire qu'elles ont une façade de légitimité, mais derrière, il y a bien sûr un souci évident de évader le fisc, qu'on n'appellera pas de l'évasion fiscale, qu'on appellera de l'optimisation fiscale, de tax avoidance, de l'optimisation fiscale, mais ce ne sont que des termes. La réalité, c'est que ces entités permettent beaucoup mieux que le secret bancaire suisse, et depuis maintenant longtemps, bientôt 20 ans, d'évader le fisc des pays comme la France.
Voilà, donc du coup, la Suisse est finalement simplement en train de laisser sa place.
Elle est en train de laisser sa place, simplement ça ne se voit pas vraiment encore dans les chiffres. Pour l'instant, on annonce des choses et personne ne panique encore parce que ça ne se voit pas. Il y a eu des entrées d'avoirs, notamment européens, même dans des banques suisses. C'était dû à la crise de l'euro. La crise de l'euro a reporté les vraies conséquences sur la place financière suisse parce qu'il y a des caisses de pension européennes qui sont venues se réfugier ici en craignant que le système bancaire européen ne s'effondre. Donc, il y a eu un petit délai comme ça, un sursis. Les banques peuvent aujourd'hui montrer qu'elles acquièrent encore des avoirs frais. Mais à mon avis, sur la décennie qui vient, on va voir le résultat. Et le résultat est qu'il y a simplement eu ici quelques 1 000 milliards de francs suisses d'avoirs européens essentiellement non déclarés, eh bien, qui vont devoir, d'une manière ou d'une autre, se fiscaliser, se résorber, se déclarer. partir vers d'autres cieux, mais qui vont plus être ici.
Effectivement, ça n'a pas l'air très engageant.
Voilà. On parle maintenant de 50 000 emplois à risque dans le secteur financier suite à l'affaire du secret bancaire. Si vous multipliez par deux pour tenir compte de tous les emplois annexes, horlogers, secteur du luxe, immobilier, automobile, tourisme, informatique bancaire, restauration, jet, etc., vous arrivez peut-être à 100 000 emplois sur la décennie. Je crois que c'est raisonnable. La chose, c'est qu'on n'arrivera pas forcément, à mon avis, même probablement pas, à remplacer ces emplois ou ces chiffres d'affaires par une activité de rentabilité similaire. Ceux qui étaient contre le secret bancaire ne trouveront eux-mêmes pas de moyen de combler cette perte aisément.
Quel genre de solution de secours envisagez-vous?
Des choses ont été envisagées. Bon, maintenant, le secteur financier veut se reconvertir dans vraiment la gestion institutionnelle, hein, la gestion déclarée, transparente, basée sur des produits financiers, comme Londres. Hein. On veut devenir un peu comme Londres ici, devenir des professionnels qui sont surtout excellents dans les techniques de gestion et non pas dans des choses comme le secret bancaire. Mais là, on rivalise avec beaucoup, beaucoup d'autres places financières. Donc là, beaucoup plus de concurrence, des commissions moins élevées, que la gestion de fortune traditionnelle et quelques incertitudes. Par exemple, quand on a voulu que la Suisse entre dans le secteur des hedge funds, il y a eu l'affaire Madoff qui a décimé ici beaucoup d'activités de hedge funds et a tué un peu dans l'œuf l'essor de ce secteur ici. On a vu les risques de ce secteur que la FINMA était vraiment très réticente à réglementer d'ailleurs. Donc maintenant, on dit oui, la Suisse pourrait devenir la plateforme, une des plateformes que Londres a d'internationalisation du yuan chinois, la monnaie chinoise. Il y a des idées comme ça que le président de l'ASB, Patrick Audy, notamment, a émises. Il y a des recherches de solutions. Le négoce international ici est aussi un petit peu à risque. C'est un secteur, comme je vous ai dit, dont le statut des sociétés est un peu menacé. Donc, la fiscalité de ces sociétés de négoce va monter, ce qui peut entraîner leur départ vers d'autres cieux. Alors là aussi, on n'a pas une solution très claire. Et certains parlent maintenant de dire, bon, oublions un peu la finance, essayons de devenir un pôle scientifique de recherche et de sciences et de technologies pour l'Europe. Essayons d'être vraiment dans la recherche et la science à valeur ajoutée. Pourquoi pas? Simplement, on n'a pas ici d'avantage naturel. Il faudra beaucoup de travail. Il faudra beaucoup de travail, des conditions moins agréables et il y aura plus d'ordre de situation. Et ça, il faut s'y préparer.
Donc, la banque n'est plus un métier d'avenir ensuite.
Voilà. Ce sera un métier plus difficile qui ne sera pas le moyen de gagner forcément le plus d'argent, même surtout pratiqué à partir de la Suisse.
Alors, je voulais encore vous entendre sur le référendum échoué contre les accords Rubik. Ça semble une certaine surprise. On a l'impression que l'Asie a mené ça un peu toute seule et que la population aurait été assez encline à signer ce genre de choses. Et puis finalement, non. La gauche et l'UDC étaient sur le coup et ça n'a pas marché.
La chose, c'est que les accords Rubik sont très compliqués. Donc, ils ont ce défaut, c'est que moi, si je suis quelqu'un qui n'a pas du tout suivi les affaires bancaires et financières, qui n'est pas écouté Xavier Auberçon ou d'autres avocats parler des accords Rubik, eh bien, je peux vous dire que moi aussi, je m'abstiendrai vraiment, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus, je me rangerai derrière le Conseil fédéral, je me dirai, voilà, nos élus, on les a élus, ils sont là, on leur fait confiance, ils ont qu'à décider, nous, on n'a pas à essayer de prendre des décisions. Parce que c'est extrêmement complexe. Les accords Rubik, il y a des taux d'imposition qui sont prévus à la source. Il y a aussi des modalités d'échange d'informations. Suivant les trois pays, Allemagne, Angleterre et Autriche, les modalités changent. C'est très compliqué. Hein. C'est pas le genre de votation qui semble avoir une réponse toute trouvée. En plus, si on est le peuple et qu'on vote ça, on ne sait pas quelle sera la réaction des pays étrangers. Il suffit qu'on soit quelqu'un qui est employé dans le secteur de l'exportation et notre principal souci sera d'abord de garder de bonnes relations avec l'Allemagne ou les autres pays qui nous entourent. Et donc, c'est pas d'autre facile à soumettre au peuple. Un thème comme l'adhésion à l'Union européenne, oui, mais les accords Rubik, je peux vous dire, il y a même des gens qui travaillent dans le secteur, mais qui ne savent pas exactement ce qu'il faut en penser.
est-ce qu'il n'y a pas un danger finalement de faire porter une certaine charge fonctionnaire sur les banques suisses qui feront le travail, si vous voulez, des employés des fiscs étrangers?
Bien sûr, personnellement, je suis contre les accords Rubik. On m'a bien expliqué, je vois très bien que c'est un pis-aller. Ça consiste à préserver l'anonymat des avoirs qui sont existants, qui sont déjà ici, et de les fiscaliser. Mais à côté de ça, il y a tellement d'autres modalités maintenant d'échange d'informations dans les conventions de double imposition. Que ça fait doublon quasiment. Et puis les taux d'imposition vont être élevés et décourageants. Les pays partenaires ont voulu que les taux soient plutôt dissuasifs, que l'Allemand qui a son compte ici finisse par se dire mais il vaudrait mieux que j'ai mon compte en Allemagne. Donc c'était un pis-aller. À une certaine période là, au début des attaques et des tensions, ça pouvait faire sens. Maintenant, avec tout ce qui a été cédé au niveau des conventions de double imposition, où des États vont pouvoir demander ici des groupes, des schémas de comportement du client, et n'auront même pas, pour avoir des informations ici, ils pourront juste faire des demandes groupées, vous voyez. On a cédé là-dessus, on va leur envoyer, ils vont dire on aimerait tous vos clients qui ont des sociétés offshore. Ils n'ont même pas besoin de donner ni le nom du client, ni le nom de la banque, rien du tout, mais ils peuvent obtenir des informations à la louche. Et donc, à côté de ça, Rubik devient presque... Rubik peut préserver le passé, mais il y aura aussi des échanges d'informations inclus dans les accords Rubik. Donc, ça fait trop de choses qui se superposent, de conventions et d'accords qui se superposent de manière redondante.
Et puis, encore une question. Le Parti socialiste a présenté une initiative populaire contre la spéculation sur les denrées alimentaires. Alors voilà quelque chose qui semble assez utile, qui va toucher sans doute le marché suisse.
C'est une bonne chose, mais ça peut limiter la flambée des prix sur les céréales, les grains, les denrées alimentaires qui affament, cette flambée des prix qui affame vraiment le reste du monde, hein, les pays les moins favorisés. Mais je suis pas sûre qu'on va pouvoir réglementer les opérations qui sont depuis Chicago ou depuis les bourses de matières premières, hein, dans le fond. Parce que l'essentiel de la spéculation sur les matières premières sont quand même des banques comme Goldman Sachs qui l'amènent. Est-ce que depuis ici, on va pouvoir limiter ça? Je n'en suis pas sûre.
Ils ont l'air assez sombres, hein, ces types de Goldman Sachs. Ils placent leurs bons hommes partout. Enfin, il y a une théorie conspirationniste.
Elle est possible, mais franchement, pour là, on change un peu de sujet, mais Mario Draghi, à la tête de la BCE, a essayé quand même de mener la politique qui va dans la continuité de Trichet, de Jean-Claude Trichet, son prédécesseur. Il n'a pas fondamentalement essayé de faire comme Bernanke, ce que je pensais qu'il allait faire.
Mais nous, on a l'impression qu'ils sont complètement tétanisés, nos politiques. Enfin, je sais pas, on avait un business qui tournait.
Oui, tout à fait, alors. Mais à mon avis, la Suisse a payé vraiment le prix pour être hors de l'Union européenne. C'est que elle avait le choix entre céder complètement comme elle l'a fait, de manière vraiment complète et totale, comme elle l'a fait, ou résister, mais alors à des risques vraiment très élevés, quoi. Genre un boycott de l'Union européenne contre nos produits. Ils n'ont pas voulu prendre de tels risques, quoi. C'est trop dangereux pour l'économie suisse de risquer des sanctions qui pouvaient tout dépasser, parce que l'Union européenne et les États-Unis ont bluffé. Ils ont montré que, en gros, ils peuvent même envisager une guerre. Ils ont même dit, les Allemands ont dit, on va faire rentrer la cavalerie en Suisse bientôt si ça continue comme ça. Enfin, il y a eu des menaces de telle portée que les Suisses les plus raisonnables, hein, certains auraient pu résister, avaient l'audace de résister, mais les plus raisonnables se sont dit, mais comment on peut se mettre à dos les deux puissances économiques que sont les États-Unis et l'Union européenne. Et puis, il y a le secteur des exportateurs, alémaniques surtout, qui ont influencé le Conseil fédéral, le secteur le lobby des machines, qui domine quand même le tissu économique suisse, le lobby de l'exportation hors finance, non financier. Ils ont dit, mais nous, la finance, on s'en fiche, en gros, vous voyez. La finance, elle représente au maximum un cinquième du PIB. Eh ben, vaut mieux se débarrasser de 20% du PIB, garder les 80% restants. Et le Conseil fédéral, face à ça, a fait le choix. Le choix de 80% de l'économie face aux 20% de l'économie. Sauf que, je pense qu'en faisant ce choix, ils ont impacté toute la marque Switzerland. Switzerland, c'est une marque. Swiss Private Banking, c'était une marque. Maintenant, ces mots-là évoquent quelque chose de différent. L'image a changé. Donc, tout le goodwill de la Suisse, si vous voulez, a baissé. Toute la valeur intangible de la marque suisse a baissé à cause de ça.
Et par rapport à la question de l'Union européenne, est-ce que la Suisse n'aurait pas été simplement capable de résister avec des accords de libre-échange avec les États-Unis, le Japon, l'Inde?
Moi, je pense que oui, il y avait moyen d'être plus dur dans les négociations, de dénoncer les autres places financières, de demander un level playing field, de réclamer vraiment l'égalité, de dénoncer le protectionnisme qu'il y a en protégeant les banques françaises et américaines et en s'attaquant uniquement aux banques suisses. Et il y avait moyen, je pense, de réagir un petit peu. Mais je pense que le Conseil fédéral, les gens qu'on choisit actuellement pour être conseillers fédéraux, n'ont pas le profil de personnes qui comprennent les affaires. Ils n'ont pas la fibre commerciale. Une Evelyn Bindersholm vient d'un canton qui n'a pas de place financière, qui est très éloignée de la notion même de place financière et n'a pas conscience de ça. Elle a pris conscience trop tard que l'évasion fiscale n'était pas du tout uniquement le fait de la Suisse, mais que c'était principalement les places anglo-saxonnes qui la dominaient. Et donc, entre-temps, elle avait déjà tout cédé en croyant que la Suisse était vraiment extrêmement coupable et qu'elle méritait ce qui lui arrivait. Cette idée-là, qui est due à une part d'ignorance par rapport au monde des places financières internationales et des paradis fiscaux, cette idée-là a fait qu'elle a fait trop de concessions. Un manque vraiment de conscience internationale.
Est-ce qu'à votre sens, finalement, une élection du Conseil fédéral par le peuple permettrait d'avoir des gens peut-être déjà élus sur un programme qui aurait un peu plus de testostérone et qui serait un peu plus redevable au peuple de leurs actions? Est-ce que ça pourrait changer les choses en mieux?
Je pense qu'on pourrait arriver à une Suisse plus souverainiste, oui. Et que si on fait le choix d'être seul, alors il faut être souverainiste et même nationaliste. On peut pas être seul et faire tout ce que nos voisins nous demandent. Alors à ce moment, il faut adhérer à l'Union européenne. Là, la non-adhésion à l'Union européenne couplée à cette docilité nous aura coûté ce que j'estime à 100 milliards de francs, c'est-à-dire le cinquième du PIB suisse, c'est-à-dire à peu près le secteur financier offshore plus les métiers annexes. Qui employait pas mal de monde dans l'économie
Bien, bah
suisse.
on voit que de toute évidence.
Donc il y a un coût. Voilà. Ne pas être dans l'Union européenne a coûté entre 2009 et aujourd'hui 100 milliards.
Voilà, mais est-ce que être dans l'Union européenne n'aurait pas coûté là?
Alors, être dans l'Union européenne aurait nécessité effectivement être dans la transparence, dans l'échange d'informations, mais les banques auraient l'accès à l'ensemble du marché des services financiers européens, qui représentent 300 millions de consommateurs de services financiers, qu'on n'a pas aujourd'hui.
Alors, vous pensez que finalement le défaut d'adhésion a été un problème vraiment majeur pour l'économie de ce pays? Parce que on entend beaucoup la version inverse qui dit que finalement on a échappé à quelque chose de terrible. On aurait eu les taux de chômage de l'Union européenne.
Oui, mais c'est un discours qui ne tient plus, parce qu'il faut déduire de ce discours ce qu'on vient de payer en termes de place financière. Il faut déduire ça. C'est un discours qui est brut, mais pas net. Si vous faites le net, si vous nettez la vraie relation, le vrai bilan d'être seul, vous arriverez au fait que on a payé un prix très lourd. Et donc, ça vous mène à réviser votre point de vue. Et maintenant, les banques parlent d'adhérer à l'espace économique européen quand même. C'est elles qui en parlent. C'est pas le peuple. Parce qu'elles ont refait leur calcul. Le calcul est différent.
Alors on entend bien ce que vous dites, mais ça pose un léger problème, j'ai l'impression de dire, de morale nationaliste. C'est que voilà, donc
Oui.
pour avoir le droit de vivre financièrement, il faut adhérer, se fondre dans des structures supranationales, ou alors faire œuvre d'une docilité totale. Je veux dire, simplement vivre chez soi et entendre faire ce qu'on veut sur son pré carré, ça semble devenir impossible.
Oui, c'est impossible et je vais vous dire pourquoi. La France a un parti, l'Union populaire républicaine de François Asselineau, qui a pour seul programme de sortir la France de l'Union européenne. J'ai eu des débats infinis avec eux, interminables, qui étaient, eux disaient, si la France était hors de l'Union européenne, elle se porterait beaucoup mieux. Et je leur ai dit, mais mes pauvres amis, la Suisse, elle a fait l'expérience. La souveraineté seule d'un pays, petit pays, ne peut pas être opposée à un bloc. Si on avait la configuration d'une France seule face à une Union européenne sans la France, eh ben, la France serait tout à fait dans une illusion complète de croire qu'elle serait libre et seule, parce que ce bloc ne recourrait pas à d'autres méthode pour la faire plier. Ce bloc pourrait recourir à des méthodes qui sortent complètement du droit normal des affaires et des façons diplomatiques normales de faire. On l'a vu avec la Suisse. Les puissances peuvent recourir à des pressions hors normes, non conventionnelles. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là avec votre petite souveraineté et votre... Vous pouvez opposer votre peuple suisse, là, vos 8 millions d'habitants de la Suisse, à des pressions et des menaces d'attaque de blocs puissants? Je sais pas. Il faut essayer, hein. Nous, on a essayé. Ben, la Suisse, voilà, elle a essayé. Elle a très vite arrivé à des limites. Et donc, même si la France était seule aujourd'hui, même si toute l'Europe se démantelait, eh ben, elle tomberait sous la coupe des États-Unis, hein. C'est pas qu'elle resterait comme ça, souveraine et libre, et sans aucune pression extérieure, et qu'elle pourrait tout faire voter, et que son peuple déciderait de tout, comme si le reste du monde n'existait pas. Je crois que là, il y a une petite illusion par rapport à ce que la souveraineté dans le monde d'aujourd'hui, hein, j'insiste, qui est faite de rapports de force, où on est dans des politiques de force. Dans le monde d'aujourd'hui, la souveraineté, elle est décotée. Elle a perdu la cote. Dans un monde où on respecte le droit international de chaque pays, qu'on respecte la non-ingérence intérieure, qu'on est vraiment dans la diplomatie respectable, la Suisse aurait vraiment tout à gagner à être seule. Tout. Mais dans un monde de politique de force, je veux dire, quand Eric Woerth vient bluffer, prétendre qu'il a tous les noms, pardon, les noms de 3 000 Français non déclarés et des choses comme ça, et qu'il y a des vols de données bancaires qui se font, et que l'Allemagne dit c'est très bien, on est prêt à acheter des données volées, ça nous dérange pas du tout. Alors là, je peux vous dire qu'on rentre dans des situations ingérables.
Et pourtant, la Suisse a acquis son indépendance face justement à des empires surpuissants, extrêmement agressifs.
Pendant une période de grâce dans laquelle le droit international était plus ou moins respecté parce qu'on avait une certaine euphorie économique qui faisait que on n'allait pas sur le territoire des autres, on s'attaquait pas aux autres, on n'était pas au coude à coude, on n'était pas dans la férocité qu'on voit aujourd'hui. Il y avait encore assez de gâteaux pour que tout le monde puisse se servir. Alors on fichait une paix relativement royale à la Suisse. Dès qu'il y a eu des problèmes économiques, des crises d'endettement, des quasi-faillites, là, tout le droit international a volé en éclats, toutes les lois convenues entre États, le protocole habituel a sauté, et puis tout était permis. C'était quasiment des politiques calibrées au poids militaire de chaque pays. Et donc, on arrive au point où ce sont les puissances nucléaires aujourd'hui. Si vous voulez vraiment planquer votre argent dans un lieu sûr, prenez la liste des puissances nucléaires et choisissez parmi elles. Et c'est là que vous serez en sécurité. C'est ça les places financières aujourd'hui. C'est les puissances nucléaires. Voilà où on est arrivé.
Mais si on prend l'exemple inverse, alors prenons des pays de la tête de la Suisse, la Belgique ou le Luxembourg qui ont adhéré à l'espace économique européen, l'Union européenne, est-ce que les avantages sont si flagrants? Peut-être le Luxembourg tire ses marrons du feu pour quelque temps, mais des pays qui ont quand même une certaine agriculture, tout ça, on voit que l'agriculture en France, ça devient pratiquement impossible avec la PAC. On voit quand même que certains secteurs financiers auxquels la population reste attachée deviennent impossibles à cause d'une politique européenne sans égard pour certains corps de métier. Donc, la Suisse aurait été quoi? Un morceau de place financière avec deux, trois écoles universitaires et puis une confrérie d'horlogers?
Elle aurait pu avoir une niche dans la finance, par exemple, comme le Luxembourg est devenu maintenant la Mecque des fonds de placement qui dessert tout le marché européen des fonds de placement, avec quelques avantages fiscaux dans des produits d'assurance vie et des choses comme ça. La Belgique, elle a aussi ses petits aménagements pour les grandes fortunes, qui permettent d'arranger les fortunes de sorte à ne pas générer d'intérêts taxables. Monaco a pu se maintenir, tant que c'est pas des Français qui vont, mais des gens du reste du monde, la France est très contente d'avoir Monaco. Et puis, oui, des politiques agricoles communes, la politique agricole commune nuit au secteur paysan, par exemple, en France. Bon, là-dedans, qu'est-ce qui est dû à l'Union européenne qui ne serait pas dû à la France si la France était indépendante? Est-ce qu'elle n'aurait pas quand même dû elle-même rationaliser son agriculture? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû même aujourd'hui imposer de l'austérité à sa population pour améliorer sa situation budgétaire? Est-ce qu'elle n'aurait pas dévalué le franc français à un point où ça aurait provoqué beaucoup plus d'inflation qu'actuellement dans la zone euro? Il y a plein de questions et vraiment, il faut chaque fois que vous parlez de l'Union européenne, il faut se demander si ce que vous reprochez à l'Union européenne n'aurait pas pu être reproché à la France ou à un pays individuel, à l'Allemagne. Je veux dire, la réussite allemande aussi. C'est une réussite qui ne peut pas ni être attribuée à l'Union européenne, ni être reprochée à l'Union européenne. Je veux dire, l'Allemagne aurait obtenu des paramètres économiques similaires si elle était restée seule. Donc, dans le fond, moi, je réduirais, je pense qu'on surestime l'influence de la construction européenne sur les économies nationales, et que beaucoup de choses qu'on reproche aujourd'hui, on blâme, pour lesquelles on blâme l'Union, on peut blâmer les gouvernements de ces pays.
On a l'impression alors que la Suisse a vraiment eu tout faux. Elle n'est pas rentrée dans l'Union européenne à temps et ensuite elle s'est couchée beaucoup trop vite.
Voilà. Et maintenant, elle va rentrer de façon un petit peu bradée, hein, à prix bradé, et puis après avoir adopté 98% des normes européennes, je le rappelle quand même, sans rien décider, parce qu'elle ne fait pas partie du club, et tard, et oui, pas dans les meilleures conditions, une fois que d'autres places financières à l'intérieur de l'Union ont déjà pris la possession de certaines niches. Donc oui, c'était un pari, mais qui n'était pas un pari de long terme. Et je comprends que la Suisse, par contre, n'ait absolument pas pu anticiper à aucun moment que le ton montrait de cette manière et que la violence des pressions qui s'exerceraient sur elle aurait cette dimension-là. C'est des manières de faire qu'on ne peut pas imaginer. Ça n'a pas existé, en fait, depuis, je crois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, des tensions pareilles. Et donc, très difficile à imaginer. La Suisse pensait avoir peut-être encore 20 ans, je ne sais pas, pour sortir de l'offshore dans des conditions plus pacifiques. Mais ces crises de surendettement des pays, il fallait en voir la conséquence. Et ça, très difficile à anticiper pour qui que ce soit.
Vous dites 20 ans, mais est-ce que l'Union européenne a autant de temps?
Alors, il y a deux choses à propos de l'Union européenne. Il y a une confusion entre l'Union européenne et la zone euro. L'Union européenne est pour moi une coquille vide, quasiment, bientôt une relique de 1992, qui était une construction qui incluait l'Angleterre et qui était un petit peu atlantiste, c'est-à-dire qu'elle était une Europe construite pour aider les États-Unis à affronter l'URSS dans la guerre froide. Depuis un certain temps, depuis 2002, une autre structure a émergé doucement, c'est la zone euro, l'Euroland. La zone euro, au contraire, est en train de se construire et de progresser. Malgré tous ceux qui l'attaquent, et les attaques, mais vraiment historiques et sans précédent qu'a subi cette zone avec sa monnaie et sur ses obligations, elle a en fait survécu. Les attaques maintenant se sont calmées parce que les spéculateurs qui attaqueraient maintenant l'Europe ont face à eux la Banque centrale européenne et ne s'y risquent plus. Et en fait, la zone euro est en train de s'intégrer et d'améliorer sa gouvernance. Elle est en train de s'intégrer au niveau budgétaire, économique, fiscal, bientôt politique. Et maintenant, les pays de la zone euro aimeraient qu'il y ait une politique même de défense commune qui s'affranchisse de l'OTAN. Il y a des choses énormes qui sont en préparation. Tous les anti-Europe, notamment en France, etc., rigolent quand on leur dit ça. Mais la vérité, c'est que la zone euro est en train de faire son chemin, hein, presque à leur insu, dans le fond, parce qu'ils regardent encore l'Union européenne et ils se trompent.
Mais est-ce que déjà certains pays vont pas devoir quitter la zone euro? Je crois qu'on voit déjà certains pays qui renoncent à y rentrer. Est-ce qu'on va pas se retrouver finalement avec un Euroland fondé sur le pivot France-Allemagne, peut-être encore l'Italie et quelques pays limitrophes?
Alors, ce scénario a failli se passer. S'il devait se passer, il se serait passé en 2010 et 2012, cette année. La fenêtre d'opportunité pour le démantèlement de la zone euro, pour moi, il est passé. Cette question ne se pose plus. Les gouvernements en difficulté sont en voie d'assainissement et d'austérité. Même si on voit défiler les gens dans les rues, ça ne veut pas dire que tout va éclater. Les gens défilent toujours quand il y a de l'austérité, de tout temps. Maintenant, la zone euro va pouvoir améliorer les budgets de ces pays. Regardez l'Angleterre aujourd'hui, elle a beaucoup plus de déficit budgétaire. Elle est à combien? À 9 à 10% de déficit budgétaire, alors que la Grèce est à 7%. Il faut regarder les chiffres. C'est l'Angleterre qui est dans une difficulté extrême, qui ne s'en sort pas. Mais les budgets de Grèce, Espagne, Portugal, maintenant qu'ils ont eu des délais pour assurer leur austérité, si on leur laisse juste 2 ans ou 3 ans pour faire l'austérité, comme n'importe quel pays dans l'histoire, comme les pays scandinaves dans les années 90, eh ben ils vont la faire, l'austérité. Et ils vont pouvoir améliorer leurs chiffres. Ça se fait dans la contestation parce que c'est impopulaire. C'est pour ça que aucun président américain ne peut plus prononcer le mot austérité et qu'ils vont droit dans le mur. C'est parce que c'est impopulaire. L'Europe a eu le courage de le faire. Regardons le résultat que ça a sur l'euro, qui est fort maintenant, contre le dollar. Et sur les budgets de ces pays qui est en train de s'améliorer. Mais ça va prendre un peu de temps. Il ne faut pas être dogmatique, anti-Europe, anti-je ne sais pas quoi. Il faut regarder la réalité, les chiffres, Qui c'est qui est responsable au niveau économique? Quelle zone est plus responsable? Qui fait de l'austérité? Qui va vers une amélioration? Et qui c'est qui ne fait rien? Pour moi, les États-Unis ne font absolument rien contre le creusement abyssal de leur déficit qui continue et leur endettement. Le plafond de la dette va encore exploser là, très bientôt. Et c'est eux qui vont vers le fossé, l'abîme fiscal, comme ils l'appellent.
On a l'impression évidemment que la solution pour ces gros systèmes serait finalement une politique de basse fiscalité, assez égalitaire, mais vraiment à plancher le plus bas possible. Et aucun des gouvernements, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne ou aux États-Unis, ne semble prêt finalement à adopter cette vision-là.
Alors oui, aux États-Unis, ils ont gardé les baisses d'impôts pour les plus riches. Vous savez que ils ont été prolongés depuis les années Bush. Et vous savez combien de déficit ça a ajouté? 6 000 milliards. 6 000 milliards ça a ajouté comme déficit. Donc ça a coûté extrêmement cher et c'est les vieux, les pauvres et les invalides et les chômeurs qui vont payer ça. Bon. Ils ont décidé de redistribuer les richesses de cette manière, c'est leur affaire. Après, c'est une affaire d'idéologie personnelle. Moi, je trouve ça grotesque parce que maintenant, il y a quasiment le quart de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, enfin 15% de la population en dessous du seuil de pauvreté, le quart qui est sorti complètement du circuit de la consommation et de l'emploi et de l'épargne. Donc, c'est contre leur intérêt économique de faire ça. Maintenant, en Europe, oui, ils ont été trop loin dans les hausses d'impôts. Ils vont ponctionner les classes moyennes, celles qui sont captives du territoire européen, pendant que les ultra-riches échappent et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'assistance, qui ne payent pas d'impôts. Donc la concentration des impôts sur les classes moyennes en Europe est aussi une erreur. C'est excessif. Austérité plus hausse d'impôts, ça fait trop.
Et alors, que penser de la situation de la Chine qui connaît un léger ralentissement? Ça rappelle un petit peu la situation de la fin du 19e où la Chine était en plein essor et puis tout d'un coup tout s'est ralenti. On n'est pas dans une répétition de ce type de schéma. Est-ce que la croissance chinoise va se maintenir? Est-ce que ça va être une menace pour cette zone euro ou au contraire, elle va ralentir?
Alors oui, la Chine ralentit, c'est tout à fait juste. C'est un motif de préoccupation, mais il faut pas non plus exagérer. Par exemple, nous, on a le professeur de l'IMD, Jean-Pierre Lehmann, dans les pages de bilan, qui a dit que là, on voyait un petit peu pointer une situation proche de la Révolution française, parce que il y a une possibilité de soulèvement très important et que vraiment là on pourrait voir exploser la Chine. Pourtant, il n'y a ni grève, ni attentat, ni centaines de millions de manifestants dans les rues à travers le pays. Bon, les gens doutent, oui, ça c'est vrai. Il y a quelques soulèvements par-ci par-là qui sont réprimés, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne s'appelle pas encore un pays en crise économique, politique et sociale similaire à la Révolution française. Faut pas être ridicule. Un pays comme l'Angleterre qui décroît à moins 0,3% par an, c'est pas la même chose que la Chine qui croît à 7,5% par an. Donc là, il faut vraiment remettre les choses à leur place. Je trouve qu'il y a presque un souhait que la Chine s'effondre. C'est presque un peu de la propagande anti-Chine. Au moment où celle-ci, d'ailleurs, mystérieusement, se met à vendre du pétrole en yuan, inaugurant l'ère des pétro-yuan, ce qui est énorme pour le dollar, hein, c'est un message, un signal très négatif pour le dollar. Mais un pays, pour moi, qui a 3 200 milliards de réserves, en gros, ne risque absolument rien. Donc, c'est un peu de ralentissement, mais c'est une grande puissance économique, sans aucun doute, qui est en train d'arriver aussi sur les technologies Internet, de la défense, et qui a le plus de nombre de MBA dans le monde, etc. Donc, non, elle a des indicateurs de développement importants.
Mais la puissance qui semble aller directement dans le mur, c'est les États-Unis.
Oui, là, je suis très pessimiste, vous le savez. Donc, j'ai écrit le livre La fin du dollar. Quand il est sorti en avril 2011, on a trouvé que c'était un. Certains ont dit que c'était beaucoup trop excessif, etc. Juste après, la bourse a rétrogradé en août 2011 les États-Unis, les autres agences de notation menacent de le faire, alors même qu'elles sont hyper complaisantes. Là, on part de base extrêmement complaisante déjà, puisqu'elles notent encore l'Angleterre triple A alors qu'elle est en quasi-faillite. Donc, c'est déjà du n'importe quoi à la base, si vous voulez. Mais même à l'intérieur du n'importe quoi, on veut quand même rétrograder la dette américaine. Les Américains eux-mêmes sont dans un souci extrême par rapport à ça. Il y a vraiment une paralysie politique. Et pour le dollar, je pense que c'est un très mauvais signal parce que maintenant, la Réserve fédérale est devenue le principal acheteur de dette américaine. Elle soutient le marché immobilier américain à bout de bras. Elle veut le faire monter à tout prix par des achats, en achetant de la dette hypothécaire médiocre et en faisant baisser les taux à 30 ans. Et aussi, elle soutient les marchés obligataires et des actions. Donc, on a un pays où c'est la banque centrale qui soutient les actions, les obligations, l'immobilier et le crédit qui met des taux à zéro pour le crédit. Et la dette souveraine, bien sûr, j'oubliais qu'elle porte à bout de bras la dette souveraine. Donc, ce n'est plus possible, là. On est vraiment dans la phase ultime de la dégradation économique et monétaire.
On semble aller vers un deuxième mandat de Barack Obama et pour vous, ce serait le coup de grâce.
Que ce soit Obama ou Romney, en fait, les quasi-faillites des pays du G7 ont fait que la droite et la gauche n'ont plus aucun impact, aucun aspect différenciateur une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Ils doivent tous faire la même chose, en gros. Il n'y a qu'une seule voie de sortie, c'est l'austérité. Seulement pour les États-Unis, ce serait une austérité tellement longue que ça modifierait une fois pour toutes leur place dans le concert des superpuissances. Donc, si elles acceptent, les États-Unis disent, voilà, écoutez, on est au bord de la faillite, on va se mettre à l'austérité, on va plus croître que de 0 à 1%, ou même on va décroître pendant quelques années jusqu'à ce qu'on rembourse un peu nos dettes. Ça veut dire que les États-Unis ont décidé de se ranger cette fois derrière plein d'autres pays qui vont croître économiquement et qui vont les dépasser. Mais les États-Unis ne veulent pas céder cette place. Donc, ils débauchent la monnaie, ils comblent avec du papier imprimé sur une photocopieuse, hein, si je peux me permettre, avec la planche à billets, un déficit qui continue de se creuser. C'est une politique vouée à l'échec. Les plus grands empires se sont effondrés en procédant exactement de la même manière.
Quelles seraient les conséquences au niveau mondial d'un effondrement? Parce que ça va pas se passer si facilement. Vous parlez des empires qui s'effondrent, ça se fait toujours dans le sang et les larmes.
Oui, je pense que on verrait certainement un impact dans tous les pays du marché financier, surtout en étant globalisés, subissent les contre-coups. Mais je pense que les autres zones monétaires et économiques peuvent émerger. Le bloc européen et asiatique peut en sortir renforcé parce que les investisseurs, eux, ils ont de l'argent. Ils ont énormément d'argent. Jamais ils n'ont eu dans l'histoire autant d'argent. Donc, ils vont chercher à se réfugier quelque part. Et à un moment, il faudra qu'ils fassent leur choix. Et ils feront leur choix. Ils iront vers les zones qui ont fait de l'austérité, qui ont réduit leur endettement et qui ont les monnaies les plus fortes au plan commercial. Et là, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. C'est le yuan et l'Asie émergente. Et puis, c'est et la Russie, et puis c'est l'Europe. L'Europe, si on prend l'Union européenne, est la plus grande puissance commerciale aujourd'hui, même devant la Chine.
En tout cas, on vous remercie. L'avenir de la Suisse a l'air assez compromis. En tout cas, sa place financière a l'air d'être au milieu d'une guerre qu'elle n'est pas décidée à mener. On espère malgré tout que les choses iront vers le mieux. Madame Miretzaki, nous vous remercions.
À très bientôt. Au revoir, merci.